Alors, on va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours sur le chapitre 15. Le chapitre 15 qui est dédié aux Sfirot. D'accord ? Donc les Sfirot, ça veut dire l'arbre, si on peut appeler ça comme ça, l'arbre généalogique de la création du monde. Donc on va essayer de développer. On a donné la semaine dernière des exemples. On a dit que quand on compte le Homer c'est 7 fois 7. En fait, on a expliqué que la structure des Sfirot se base sur 7 Sfirot. C'était dans la lettre 15.
Cette
vape. La structure des séphirot se base sur 7 séphirot x 7. 7 x 7, ça fait 49. Donc on a ici les 49 jours du Homer. Pourquoi 7? C'est ce qu'on va développer Bezrat Hashem dans cette lettre-là. Mais avant de rentrer dans les détails des séphirot, avant d'expliquer les séphirot, à quoi ça correspond, quels sont les 7 séphirot et quels sont les 7 sous-séphirot, enfin, et comment on arrive à 49, on a expliqué la semaine dernière quelque chose de très important. On a expliqué que la raison pour laquelle on voit que dans la Kabbalah, on se focalise beaucoup sur les Sfirot, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe chez Dieu et chez les anges et comment ça se passe. Et quand on lit ça, on peut avoir l'impression que, a priori, ça ne nous concerne pas. Ouais, tête de vin. On peut se dire, a priori, ça ne nous concerne pas. Comment ça se fait que chaque fois qu'on étudie la Chassidut, chaque fois qu'on étudie la Kabbalah, on va nous parler de la profondeur de la Torah, on va nous parler des Sfirot? Comment ça se fait qu'on a besoin de nous parler des Sfirot? C'est ce que c'est les Sfirot?
Oui.
On va pas dans les détails. Alors on va rentrer dans les détails. Ça, c'est la question qu'on a posée la semaine dernière. On a dit, avant même de rentrer, d'expliquer quel Sfirot correspond à quoi, il faut d'abord expliquer pourquoi on doit en parler. Alors, il a donné le premier élément très important la semaine dernière. Il a dit qu'en fait, la manière comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est un texte dans Yirmiya, je crois. C'était Naïa, pardon. Il dit que Mibsari Echeze Eloka. Au travers de ma chair, je peux voir Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière? On a expliqué que la raison pour laquelle on analyse les Sfirot, on analyse comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est parce que, en vérité, c'est exactement de la même manière que notre Neshama se trouve dans notre corps. Notre Neshama va devoir s'habiller dans notre corps. Pour que notre Neshama rentre dans notre corps, on a dû avoir deux éléments qui sont presque contradictoires. Le corps qui correspond au matériel, la Neshama qui correspond au spirituel. Donc on a dû prendre deux éléments et on a dû les marier. Je veux comprendre comment ça s'est passé. Et bien on te dit, tu sais comment ça s'est passé? Et pour comprendre comment ça s'est passé, tu vas voir comment Dieu il a fait pour le monde. Parce qu'il avait exactement le même problème. Le monde, c'est le matériel. Et l'énergie de Dieu, c'est le spirituel. Donc la raison pour laquelle on s'arrête beaucoup sur les Sfirot, parce que quand on a compris comment Akadosh Baruch Hu a créé le grand monde, on va comprendre comment ça tourne chez nous aussi. Et vice versa. Quand on comprend comment ça tourne chez nous, c'est ce qui va nous permettre de comprendre comment le monde tourne. Donc on avait donné plusieurs exemples la semaine dernière. On avait vu avec des tzadikim que des fois, pour comprendre ce qui se passait dans le monde, ils regardaient comment ça se passait chez eux. Et quand je comprends comment ça se passe chez moi, automatiquement je comprends comment je vais régler le problème dans le macrocosme, dans le monde. D'accord ? C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Maintenant qu'on a expliqué ça, qu'on a expliqué donc pourquoi c'est important de parler des Sfirot, c'est pas juste la curiosité, c'est parce que ça va nous permettre de comprendre comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et comment nous, en vérité, nous, et comment nous, notre Neshama, comment notre Neshama tourne. Maintenant qu'on a expliqué ça, on va maintenant rentrer dans les détails pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est les Sfirot. Alors, avant d'expliquer ça, on a commencé simplement la question la semaine dernière. On va prendre à Har Tzarich Lehakdim. Ici. On est quatre lignes avant la fin de la page, Kouf Rappel. Donc il dit comme ça. Ar tzarich lehakdim, cependant il faut devancer. Il faut d'abord expliquer. Ma sheshamati mi mori alav shalom al pasuk vanochi afar va'efer. Pour expliquer qu'est-ce que c'est les Sfirot, dit je vais d'abord expliquer ce que j'ai entendu de mon maître. Donc c'est l'Admor HaZaken qui a entendu de son maître. Son maître était le Magid de Mezritch. Al pasuk vanochi afar va'efer. L'Admor HaZaken, lorsqu'il était jeune homme, il est venu, enfin jeune homme, jeune marié, il est venu voir pour la première fois le Magid de Mezritch. Et il lui a posé la question, il lui a dit, comment comprendre ce qu'Avraham Avinu dit? Avraham Avinu dit plusieurs fois, il dit, je me considère comme de la poussière, et comme de la terre et comme de la poussière. Et donc il a posé la question à son maître, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Avraham Avinu, il dit, je me considère comme la terre et de la poussière. Comment vous comprenez ça? C'est un synonyme de quoi?
D'humilité.
Sauf que ça peut pas être une vraie humilité, parce que quelqu'un qui est très riche et qui vient et te dit, je suis pauvre, il y a un problème.
Oui. Fausse modestie.
C'est une fausse modestie. C'est-à-dire quoi? Je suis une poussière, t'as pas une poussière.
Dis-moi, bon, j'ai pas envie, je me sens pas orgueilleux, etc. Mais ne dis pas que je suis une poussière et de la cendre. C'est faux. C'est du mensonge.
Oui, j'ai une existence.
J'ai une existence. Comme quelqu'un qui est très riche qui dit je suis pauvre. Ça veut rien dire. Donc, c'est une question que l'Admor HaZaken, a priori, aurait posée à son maître, le Maguid Meserich. Vous allez voir le rapport avec les Sphirotes. Il lui a posé la question. Il lui a dit comment comprendre quand Abraham Avinu, il dit je suis considéré comme de la poussière et comme de la cendre. Al-Aharat Nishmato, et voilà ce que l'a expliqué le Maguid Meserich. Al-Aharat Nishmato, Ameira Begufo me Or Chesedalion, ve imidato midat Ahava Rabba, Sheba Aya Hoev et Akadosh Bohu Ahava Gdola Veliona Kolkach, Ad Shenase Merkava, le Akadosh Bohu. C'est quoi la réponse? Il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, quand on te dit qu'Avram Avinu, était comme de la poussière, ça ne veut pas dire que Chas v'Shalom, Avram Avinu, il est en train de dire je vaux rien. Non. Parce que dans ce cas-là, ça s'appellerait une fausse humilité. Alors ça veut dire quoi? Quand Avram Avinu dit je suis que de la poussière et comme de la cendre. Ce qui veut dire Avram Avinu, il veut dire que tellement je sens que Akadosh Baruch Hu est clair en moi, tellement je sens que le spirituel est clair dans mon matériel, que je ressens pratiquement pas le matériel. Je ressens pratiquement pas ma personne. C'est ce qu'il veut dire ici. Je veux dire comme ça. Quand il dit je me sens comme de la poussière et comme de la cendre, ça ne veut pas dire qu'il est de la poussière et comme de la cendre. C'est quoi la poussière? C'est quoi la cendre?
C'est une partie du corps alors.
La poussière, c'est quand j'ai pris le matériel et je l'ai écrasé au maximum. C'est quoi la cendre? Pareil, j'ai pris le matériel et qu'est-ce que j'ai fait avec? Je l'ai brûlé, je l'ai consumé. Ça veut dire que voilà, je l'ai consumé, j'ai brûlé le matériel, ce qui reste c'est de la cendre. Donc ça veut dire quoi quand ta femme a vu nous dit de la poussière et de la cendre? La poussière et la cendre représentent c'est la représentation la plus basse possible du matériel. Ça veut dire la poussière, c'est de la poussière, c'est du matériel mais c'est de la poussière, ça n'a pas d'importance. La cendre, c'est ce qui a brûlé. Ça veut dire qu'on a brûlé le matériel. Qu'est-ce qu'il dit Avram Avinu?
Là, c'est plus de la modestie. Là, ça devient
non,
de
c'est pas de la modestie.
Non, là, ça devient au contraire de l'orgueil, si tu peux dire.
Non, c'est pas de l'orgueil, justement. Ce qu'il va expliquer ici. Il dit comme ça. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Il y a un mariage constant entre le matériel et le spirituel. Dans la neshama, entre la neshama et le corps. Dans le microcosme. Et dans le macrocosme, entre Dieu et le monde. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Avram Avinu? Avram Avinu, il dit tellement j'ai réalisé que ma neshama était dans mon corps, tellement j'ai réussi à réaliser qu'en vérité, c'est la neshama qui gère tout, que finalement mon corps, je le sens même plus. C'est comme si qu'il était inexistant. Est-ce que c'est de l'orgueil? Non, c'est pas de l'orgueil. Le Zohar dit la chose suivante, on avait déjà étudié ça une fois, il dit qu'Avram Avinu, il avait un niveau, il était tellement soumis à Kadosh Baruch Hu, qu'Avram Avinu était comme une Merkava, comme un char. C'est quoi un char? Pourquoi on appelle un char? Parce qu'on dit, il y a deux choses. Quand tu as une charrette dans laquelle tu as un âne, enfin ou un cheval, et tu as un carrosse. D'accord? C'est deux choses différentes. Le cheval, tu vas le frapper un petit peu, s'il faut, et il avancera. Mais il a quand même un libre arbitre. C'est-à-dire qu'il réfléchit, mais seulement comme tu vas lui donner sa carotte, ou tu vas lui donner son truc, donc il va décider d'aller. Mais il y a une décision à prendre. Mais le carrosse, est-ce qu'il a une décision à prendre? Il n'y a aucune décision. Le carrosse, tu le tires, il avance. Il ne réfléchit pas. Et le Zohar, il dit qu'Avram Avinu, il était tellement, et les patriarches en général, il était tellement annulé à Kadosh Baruch Hu, qu'il n'était pas comme un âne. Ni comme un cheval. Il était comme le carrosse. Ça veut dire que pour eux, il dit, moi je suis le carrosse de Dieu. Dieu, il tire, j'avance. C'est extraordinaire. Ce qu'il dit ici. Ça, cet enseignement, on le tient de qui? On le tient du Maguid Meserich, qui l'aura enseigné à son élève. D'accord? Ça va?
Hein? Ah oui.
Bon, je crois qu'on va laisser à 8h30.
Ça paraît incroyable.
On va laisser à 8h30.
Il y avait de la neige.
C'est pas le Maroc, c'est clair.
C'est surprenant, hein.
Ouais.
La France.
On a repris ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc il dit comme ça, je continue. Vehi midato midata varab. Donc, vesal kadatachamina, j'aurais pu penser, chez Bibri, la tresse, ça devait avacher le mal, abissure, talionot, ime en soug, ve mahout midata varabash, à la ramine, à la vachalom, rakshehi. Gdola venifla mimena le mala malad enket vetachlit. Il dit comme ça. Quand Avram Avinu il dit je me sens comme de la poussière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sent que le spirituel d'Akadosh Baruch Hu, il est tellement fort que finalement il se sent complètement insignifiant devant ça. Vous savez, il y a un exemple qu'on amène chez Chassidim. On dit comment un Chassid il se sent quand il se trouve devant son rabbi? Un Chassid qui va voir son rabbi. Comment il se sent? Chez Chassidim, on explique que tu as deux catégories de Chassidim. C'est une première catégorie, c'est quelqu'un qui va se dire, bon, moi je suis quelqu'un, mais le rabbi, il est beaucoup plus grand que moi. Comme il est beaucoup plus grand que moi, il a beaucoup plus d'expérience que moi, enfin en tout cas même, il a plus de doucha que moi. Donc bon, je me dis, je me tais. Mais je me tais, c'est-à-dire quoi je me tais? C'est-à-dire je décide de me taire parce que je pense que j'ai affaire à une personne
qui
est supérieure, qui est plus grande que moi. Bon, ça c'est une première catégorie. Une deuxième catégorie, c'est pas ça. C'est pas que tu te dis, bon, moi je suis à 1%, lui il est à 100%. C'est que tu te dis que le tzadik, il est tellement fort que t'es 0%. Et que c'est même pas que j'ai besoin de faire un travail pour me dire, bon, je vais l'écouter.
Tu te compares pas.
Je me compare même pas. Pour moi, je me sens comme une poussière, comme un microbe. On voit rien devant le tzadik. C'est les deux catégories. Et on dit, c'est ça ce qui fait la différence entre Avraham Avinu et nous. C'est que nous, finalement, quand on écoute la Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, tu dis, tu fais ci. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit, notre Tessara? Il dit, bon, d'accord, tu vas écouter Dieu, parce que Dieu, il est plus fort que toi. Mais moi, je suis quelqu'un quand même. Je suis quelque chose. Seulement, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi encore. Ça, c'est comment on réfléchit normalement. Avraham Avinu, comment il réfléchit, il dit, non, moi, je suis 0%.
Et qui c'est capable de réfléchir comme ça, que les tzadikim?
Qui quoi? Bien sûr, personne.
Les tzadikim peuvent réfléchir comme ça.
Ah, maintenant, il va développer maintenant longuement. Ça, il va le faire dans les mots. On va sauter quelques lignes. On va passer à Velazé Amar Vanochi Afar Vaefer. Vous savez, Velazé Amar? Je ne vais pas faire tout ce chapitre. Je vais prendre quelques parties. Alors. Voilà, Velazé Amar, ici. Velazé Amar. Oui, c'est ici. Vav Lamed Zain Aleph. Tu as?
Je cherche. Ici.
Velazé Amar.
C'est la dixième ligne à peu près.
Vav Lamed Zain Aleph. Voilà.
Merci.
Alors, Velazé Amar, c'est pour ça qu'Avraham Avinu a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, rappelez-vous, c'est un enseignement que l'Admor HaZaken répète au nom de son maître, le Magui du Mezerich. Il dit, Velazé Amar, c'est pour ça qu'il a dit, Avraham Avinu, Ve'anochi Afar Va'efer. Qu'est-ce qu'Avraham Avinu a dit? Il a dit, je me sens comme de la poussière et comme de la cendre. Alors on va développer, vous savez, l'Admor HaZaken est toujours fidèle à son principe. Quand la Torah, elle dit quelque chose, il faut aller à la précision. Il n'y a pas de hasard. S'il a dit de la poussière et de la cendre, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est la poussière, qu'est-ce que c'est de la cendre. Et ça va nous permettre de comprendre comment Avraham Avinu se sentait. Et ça va nous permettre de comprendre comment le monde est en vérité par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et comment nous, on est par rapport à notre Neshama. Parce que rappelez-vous, c'est le même concept, la même dynamique. On est d'accord? Vous étiez pas la semaine, mais est-ce que vous suivez?
Oui,
d'accord. C'est la même dynamique. D'accord? Parce que j'ai essayé de faire un point de la semaine dernière. C'est la même dynamique. Ça veut dire qu'on a toujours le même problème. Tu as un élément, deux éléments qui n'ont rien à voir, et tu dois les mettre l'un avec l'autre. Et je vous donne une petite cerise. À la fin, on parlera également du mariage. Parce que dans un mariage, c'est la même chose. Tu prends un homme et une femme, ils n'ont rien à voir. Exactement comme l'aneshama et le corps. L'aneshama, c'est l'homme, le corps, c'est la femme. Parce qu'on dit que l'homme, normalement, est plus spirituel que la femme. Ça, c'est écrit. L'homme est plus spirituel, la femme est plus matérielle. Donc on a exactement le même problème qu'on a entre l'aneshama et le corps. Qu'on a entre le spirituel et le matériel. C'est le même problème. C'est que tu prends deux éléments qui n'ont rien à voir.
Je te confirme, les petites qui sont...
Alors attention, tu as deux éléments qui... Je te conseille pas de répéter. Tu as deux éléments qui n'ont rien à voir. Et tu dois les marier. Tu dois les mettre l'un avec l'autre. C'est un problème. Comment on fait? Alors il y a forcément... Alors, soit tu vas réussir à les cohabiter l'un avec l'autre, c'est ce qui se passe en général, mais ce qui va se passer normalement, c'est qu'il y en a un qui prendra le dessus, et l'autre, il sera comme la poussière et de la cendre. La question est, qui sera la poussière et la cendre? Est-ce que c'est le spirituel envers le matériel, ou le matériel envers le spirituel?
C'est le combat.
C'est le combat. Qui va prendre, et qui va gagner? Ce qu'on va développer. Donc, c'est pour ça qu'il parle ici d'Avraham Avinu. Parce que si on va comprendre comment Avraham Avinu il se ressentait par rapport à sa Neshama, ça va nous permettre de comprendre quel est le vrai rapport qu'il y a entre la Neshama et le corps. Le vrai, pas celui qu'on ressent. Ça va nous permettre de comprendre le rapport qu'il y a entre Dieu et le monde. Et ça va nous permettre de comprendre en général le rapport qu'il y a entre les Sphirotes et le monde. Une fois qu'on aura compris ça, après on pourra rentrer dans les détails du Homer. Le Homer, c'est les Sphirotes, on pourra rentrer dans les détails. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, on ne pourra pas rentrer dans les détails. Parce que le Homer, c'est finalement les Sphirotes du monde. Mais pour rentrer dans ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est les Sphirotes pour nous. Très bien. Donc on repasse maintenant à Avraham Avinu. Qui a dit, je me sens comme la poussière et de la cendre. Magui de Mezerich a dit, ça veut dire quoi, je me sens? Ça veut dire, mon matériel par rapport à mon spirituel. Ah, ça nous intéresse. Donc son matériel par rapport à son spirituel, il se sent comme la poussière et comme de la cendre. On va développer. Mais la Zéhamar va Nochi Afar va Efer. C'est pour ça qu'Avraham Avinu a dit, je me sens comme la poussière et comme de la cendre. On va commencer par la cendre. Dekmo Sha Efer, ou Mauto Vatmuto Shalas Anisraf. On va prendre la cendre. j'avais du bois, j'ai brûlé, et ce bois est venu de la cendre.
C'est le résidu.
D'accord ? Cette cendre, d'où elle vient ? C'est du bois.
C'est le résidu.
C'est le résidu du bois. C'était du bois, on est d'accord. C'est pas une nouvelle entité. C'est pas une nouvelle entité. On est d'accord. C'est pas une nouvelle entité, c'est le résultat du bois. C'est pas une nouvelle entité.
Chimiquement, je sais pas si c'est pas une nouvelle entité, si.
On parle pas de création de quelque chose de nouveau.
D'accord, mais c'est la combustion.
C'est une réaction chimique.
C'est-à-dire, mais quand tu mélanges les deux, tu obtiens une troisième matière en réalité.
Regarde ce qu'il explique. Il dit comme ça.
Le feu n'est pas une matière.
Alors regarde ce qu'il va expliquer. Il va expliquer comment ça se passe.
Tu retrouves les origines du premier, mais c'est pas la troisième. Ce que tu obtiens naissance, c'est pas.
C'est pas du bois.
C'est du résidu.
Ah non, c'est pas du bois. Non, non. Il va expliquer tout de suite.
Regarde. Du résidu carbone.
Dès que moi je suis à FR. La cendre, ou Mauto Vatnuto Shalal Sanisra. En vérité, la cendre, c'est l'essence du bois, c'est-à-dire ça vient du bois. Mmh. Seulement quoi ? Le bois, ce bois-là, avant que tu le brûles. Ayam Murkav, Midalat Yusodot. Ce bois était composé de quatre éléments fondamentaux, qui sont Esh, Ruach, Maïm, Afar. C'est Maïmonide, dans les lois des fondements de la Torah, donc au tout début du Mishneh Torah, qui dit que chaque chose dans le monde est composée de quatre éléments, à savoir le. D'abord, il commence par le feu.
Le feu.
D'accord ? L'air, parce qu'il commence par, ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de plus spirituel, d'accord ? Ce qu'il y a de plus raffiné. Donc le feu, l'air, l'eau, la terre. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'ai pris maintenant ce morceau de bois et je l'ai brûlé, qu'est-ce qui s'est passé ?
On a décomposé.
Regardez comment il développe. Quand tu as brûlé, avec Gimel Yesodot, les trois bases, à savoir Esh, le feu, Maïm, l'eau, Ruach, le vent, Khalfu ve'alchulahem, ils sont partis. Ve'chalou be'ashan amitave markavatan. Quand on a brûlé, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu de la fumée. Qu'est-ce qu'on a dans cette fumée ? Dans cette fumée, tu as ces trois éléments. Tu as le feu,
oui.
D'accord.
L'air.
Tu as également l'air,
oui.
D'accord. Ça, tu as de l'air parce que la fumée c'est de l'air. Et tu as également l'eau. Pourquoi l'eau ? Parce que tu as une condensation.
Oui.
Donc l'eau, elle est partie dans la fumée.
Évaporé, oui.
L'eau, elle s'est évaporée. Qu'est-ce qui te reste ?
La terre.
Il te reste le quatrième, qui était la terre. On est d'accord ? Mm-hmm. Donc ça veut dire quoi ? C'est quoi de la terre ? Enfin, de la cendre, pardon. C'est quoi la cendre ? La cendre, c'est quand on a décomposé quelque chose et qu'on a réussi à retrouver un seul élément.
Un seul élément, d'accord.
On est d'accord ?
Mm-hmm.
Rappelez-vous, il explique ça pour expliquer pourquoi Avraham Avinu a dit ça. C'est important pour nous. Veyesod Adalet Shaya Be'et. Donc, le quatrième fondement qu'il y avait dans ce bois, Sheu Afar Shebo, qui est la poussière, la terre. On a dit qu'il y a quatre éléments.
La cendre.
Ayored Lemata. La cendre, c'est la terre va toujours vers le bas. Toujours, la terre aura toujours tendance à aller vers le bas, donc elle ne peut pas partir avec la fumée. Pourquoi elle ne peut pas partir avec la fumée avec les autres ? Parce que la terre, elle va toujours vers le bas. Tous les autres, ils ont la capacité de monter. Même l'eau, tout peut monter, mais la chose qui ne monte pas, c'est la terre. Donc c'est pour ça que quand tu l'as brûlé, les autres, ils sont montés parce qu'ils ont la force de monter. Ils peuvent monter, le vent peut monter, le feu peut monter, l'eau peut monter, on peut arriver à la condensation. Mais la terre ne peut pas monter. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? La terre est retombée et c'est devenu de la cendre. Autre chose qu'on sait de la terre, c'est que le feu n'attrape pas la terre.
Si elle est seule.
Si elle est seule. Tu prends de la terre de dehors, tu essaies de la brûler, ça ne brûle pas. Pourquoi ? Parce que le feu n'attrape pas la terre. On est d'accord ? Vous pouvez essayer.
Ça
de
toute
façon, on sait, c'est avec ça qu'on éteint. On est tout fait avec la terre.
Des produits ignifugés. Ouais.
Donc la terre, le feu n'attrape pas la terre. Ou Anish Arkayam, ça veut dire que tu peux tout brûler, mais il y aura toujours quelque chose qui restera. Qu'est-ce qui restera ? Mais où AFR, c'est la cendre. Ça, impossible de l'enlever. Tu pourras la disperser si tu veux. Ça, tu peux. Mais tu pourras jamais la faire disparaître de la terre. Impossible. Ok. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vérité, quand j'ai brûlé, et que j'avais un morceau de bois qui était là comme ça, et je me suis retrouvé avec, avec 2 grammes de cendre. Cette cendre, c'est quoi finalement ? C'est l'essence du morceau de bois. Parce que tout le reste, c'est évaporé. Il ne reste rien. Et ils sont évaporés, ils sont repartis à leur source. L'eau vers l'eau, le feu vers le feu, le vent vers le vent. Ils sont évaporés, ça y est, ils sont partis. Ils n'existent plus. Ils sont complètement partis. Mais la seule chose qui est restée, qu'est-ce qui est resté de ce morceau de bois, de cette identité ? C'est la cendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la cendre, c'est l'essence du bois. On est d'accord ? Je ne sais pas si vous voyez où va en arriver, parce qu'Avraham Avinu, il a dit, je sens que je suis comme de la cendre.
D'accord.
Ça veut dire quoi ?
On dit l'essence. On pourrait penser par l'essence, c'est l'essentiel aussi.
Non, l'essence, ça veut... Oui, l'essentiel.
Oui, non, mais est-ce que...
Oui, ça veut dire c'est ça le morceau de bois.
Parce que tout le reste, ils peuvent partir.
D'accord.
Ça, c'est une valeur sûre qui ne partira jamais.
Oui, mais qui est rattachée à la terre, donc plus matérielle.
Peut-être, ça ne change pas.
Oui.
Ça veut dire que c'est quoi le concept de la cendre? Qu'est-ce que ça représente, la cendre? La cendre, ça représente la terre. La cendre, ça représente l'essence de la chose, mm-hmm. l'essence du matériel. Mm-hmm. Quand Avraham Avinu, il dit « Anochi afar va efer », il dit « Moi, finalement, je suis que de la cendre ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie, comme il va expliquer ici, dans notre vie, on a une composition, de la même manière qu'on a une composition de quatre éléments, de la même manière dans notre vie, on a une composition de plusieurs éléments. Et c'est cette composition qui fait qu'on a l'impression que notre corps, qu'on est important, qu'on est très important et qu'on a de l'orgueil. Mais quand tu décomposes tout ça, tu restes avec quoi? Non, le vent, il s'en va. Le feu, il s'en va. D'accord? L'eau s'en va, tout s'en va. Tu restes avec quoi? Tu restes avec la cendre. Et tu comprends qu'en vérité, c'était de la cendre. Donc quand Abraham Avinu dit « Je suis de la cendre », c'est pas Chassé Shalom pour dire « Je vois rien ».
Je suis rien.
Non. C'est pour dire « Je suis arrivé à la conclusion » que mon matériel, finalement, c'est comme la cendre. C'est-à-dire qu'il a réussi à se décomposer. C'est extraordinaire. Il a réussi à se décomposer. Ce qu'il va expliquer. Veiné. On continue. Kol Maout, il explique longuement dans les mots. Hein, c'est une lettre. Donc c'est plus... Les lettres, comme je vous ai expliqué, déjà de Morazaken, c'est très souvent... ça s'explique en longueur. Veiné. Kol Maouta et Tsumamasho. L'essence du bois et le mamage du bois. Le mamage, ça veut dire
l'essentiel,
d'accord. Vechomo, vetsurato beorer verocha. Mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Mais moi, ce morceau de bois, avant que tu le brûles, il y avait un morceau de bois qui était structuré, qui avait une matière, qui avait un chomer, qui avait une tsura, qui avait une forme. Chomer, c'est la matière, tsura, une forme. Il avait une forme, on pouvait le mesurer en long, en large. En épaisseur, en épaisseur.
Il avait une existence.
Shaya nir el ayn kodam shenisraf. Et tout ça, on le voyait. Il dit, mais tu sais, tout ce que tu voyais en vérité, quel était l'élément principal qui faisait tenir tout ça, c'était quoi?
La terre.
L'élément principal qui fait tenir tout ça, c'est la terre. Seulement, tu ne voyais pas. Si tu prends ce morceau de bois et tu le mets devant la terre, tu te dis, non, la terre, ça ne vaut rien. Ça, c'est un élément qui tient, qui est beau. Mais maintenant qu'on l'a brûlé, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'on l'a décomposé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en vérité, qu'est-ce qui était la fondation, qu'est-ce qui était l'élément principal de ce morceau de bois? C'était la terre. C'est ce qu'il y a de plus élémentaire. Rak seulement. She'esh ma'im ruar klulimbo. Seulement, on a intégré aussi, avant qu'on le brûle, il y avait du feu, de l'eau et du vent qui étaient avec lui. Mais le plus important, c'était quoi? L'élément principal qui faisait tenir ce morceau de bois, qui faisait que ce morceau de bois est un morceau de bois et qui ne se disperse pas. C'était quoi? C'était la terre. Qui a afar ou chomri yoter mikulam. Regardez la définition qu'il donne ici. Il dit parce que la terre, c'est ce qu'il y a de plus matériel. Veyesh lo orer, veorar, verochav, verovi. La terre, ça peut se quantifier. Ça peut se mesurer. Ça peut avoir une longueur, une largeur, une épaisseur. Machen ken be'esh, alors que le feu, est-ce que le feu, ça se quantifie? Non. Le vent, est-ce que ça se quantifie? Non plus. Est-ce qu'on peut dire, voilà, il y a une longueur de 10 mètres de vent? Tu peux pas. De la même manière, donc, esh, ruach. Ah, tu vas me dire, oui, mais il y a l'eau. L'eau, on peut quantifier. Je mets de l'eau, je peux quantifier. Il dit oui. Mais gamma maïm, même l'eau, c'est vrai que dans l'eau, il y a quand même déjà une certaine matière, parce qu'on peut quand même mesurer de l'eau. Achem me'at miser. Mais ça n'a rien à voir entre le liquide, be'etz, et le be'etz, alors, par rapport au solide. Le solide, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que tu as d'abord le feu et le vent. C'est deux éléments que tu peux même pas mesurer. Est-ce qu'on peut mesurer du feu et du vent? Non. Tu dis, bon, alors après on descend, il y a l'eau. L'eau, tu peux la mesurer. Mais l'eau, c'est du liquide. Est-ce qu'on peut mesurer l'aspect matériel de l'eau d'un liquide et l'aspect matériel d'un solide? Ça n'a rien à voir. Le solide, c'est ce qu'il y a de plus dur, ce qu'il y a de plus matériel. Ça veut dire qu'en vérité, quand j'ai ici la table qu'il y a devant moi ici, certainement que la table, bien sûr qu'il y a ici, du esh, du rouar, du maïm et du afar. Il y a tous ces quatre éléments. Mais quel est l'élément principal qui fait que la table tient? C'est la terre. Bien qu'il y ait tous les quatre éléments. Donc, chez oua efer, je reprends, verol, orko, verovio, verorvo, verovio. Et donc, toute la longueur, on sort, verorvo, la largeur, verovio et l'épaisseur, akol aya mina afar, tout vient de la terre. D'accord? Tout vient de la terre. Ve'akol shavela afar. Et tout revient à la terre. C'est ça qu'on dit. Vous savez, c'est une des choses qu'on dit quand une personne part de ce monde. On dit, tu es venu de la terre et tu repartiras vers la terre. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que l'homme se décompose et quand on se décompose, ben, on est venu de la terre. Adam Arishon, il a été composé comment? De la terre.
revient de la terre, on retourne vers la terre.
Mais il s'appelle Adam, Adama.
Adama, exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit ici que finalement, la terre, c'est ce qu'il y a de plus élémentaire. Élémentaire. D'accord? C'est ce qu'il y a de plus élémentaire. Sans ça, rien ne tient. Bon. De la même manière que la poussière, la cendre. Tu ne peux pas comparer la cendre. Il n'y a aucune comparaison, aucune commune mesure. El ma'out a et sa gadol veorer 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 verovi. Maintenant, on va essayer de comparer. Donc on a dit, voilà, j'avais un morceau de bois, cette table, je l'ai brûlé. Je vais obtenir de la cendre. Combien de grammes je vais obtenir de cendre? Je ne m'y connais pas. Pas grand-chose. Combien? Pas grand-chose. Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Je vais obtenir cette cendre. Très bien. Cette cendre que je vais obtenir, est-ce qu'on peut comparer? Tu vas mettre d'un côté la cendre et de l'autre côté une table qui n'a pas encore été brûlée. Est-ce qu'on peut les comparer, Birlal? Ça n'a rien à voir. Là, tu as une table qui est composée, là, tu as de la cendre. Mais pourtant, on sait que l'élément principal de la table, c'était quoi? C'était la cendre, c'était la terre. C'était le fondement de la terre. Mais ça veut dire que on sait que c'était le fondement, mais quand même, une fois que tu l'as brûlé, il n'y a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de commune mesure, il n'y a pas de comparaison. On va arriver au sentiment qu'avait Avraham Avinu, rappelez-vous. Donc, Af, Sheou, Hu, Mauto, Vatnuto, bien qu'en vérité, la poussière, la cendre, c'est l'essence de la table que j'avais avant. C'est l'essence, on est d'accord, ce qu'on vient d'expliquer. Mais il n'y a quand même aucune commune mesure, tu ne peux pas les comparer les deux. Alors explique le Magui de Mazérite, c'est comme ça qu'il explique ici. Kar al-derech machal. De la même manière, vous avez dans les mots? Oui. Allez, on va lire dans les mots. Je vais avancer un peu vite dans les mots, parce qu'il explique longuement ça.
C'est alors. 242.
Ouais.
Deux lignes avant la fin.
Deux lignes avant la fin. Voilà, kar.
Deux lignes avant la fin. Kar al-ayin d'alet même, en bas de la page. Voilà.
Car al derer machal, il en est de même si on pourrait donner ce machal. Amar Avraham Avinu al avashalom. C'est ainsi ce qu'a dit Avraham Avinu al avashalom al midato midat achesed ve'ahava sur sa mida, qui est la mida de l'amour, d'accord, de la bonté et de l'amour. Ameirabo umlu bechet begufo. Extraordinaire ce qu'il explique ici. Il dit comme ça. Il dit Avraham Avinu, il était conscient qu'il était l'ambassadeur de la mida de chesed dans le monde. On dit que chaque tzaddik est ambassadeur d'une certaine qualité de Dieu. D'accord? Et donc, par exemple, on sait que Yitzhak, le fils d'Abraham Avinu, était l'ambassadeur de la rigueur. C'est pour ça que toute sa vie était rigoureuse et représentait la rigueur. Tout ce qu'il fréquentait était rigoureux. Abraham Avinu était l'ambassadeur de la bonté, de l'amour. À tel point qu'il y a un midrash qui dit que la midat ha-chesed qui est venue se plaindre devant Akadosh Baruch Hu, elle est dans la vie du vivant d'Abraham Avinu et qui lui a dit « j'ai plus de travail ». C'est écrit. Parce qu'Avraham Avinu, c'était l'ambassadeur. Donc Avraham Avinu, il sentait qu'il avait en lui une énergie. Un peu comme cette table. Un peu comme cette table que tu sens que... Bah, tu sens finalement qu'il y a une table qui tourne, etc. Mais Avraham Avinu, il a dit, hey, attention. Moi, je vois la table. La table, c'est moi. Mais je prends conscience qu'en vérité, cette table, c'est quoi? En vérité, cette table sans Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est de la cendre. La terre que j'ai ici, c'est-à-dire toute la structure que j'ai créée, moi. C'est de la cendre. Si je n'avais pas le feu, le vent... Et l'air, donc on a dit le feu, l'air et l'eau qui étaient venus s'associer à cette cendre, ça ne vaut rien du tout, c'est de la cendre. D'accord? C'est un peu ce qui veut dire Avraham Avinu. Il dit, moi je suis quoi? Moi je suis un homme. Donc c'est quoi l'homme? Ben, un homme, c'est automatiquement, c'est de la poussière, c'est de la terre. Alors c'est vrai que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il m'a rajouté le feu, il m'a rajouté l'air, il m'a rajouté l'eau, et il a fait que maintenant j'ai une structure. Et que maintenant, j'ai une forme d'un corps et je représente beaucoup de choses. Mais je prends conscience que sans ces choses-là, si j'avais uniquement la terre, ce qui est finalement la composante principale du corps de l'homme, j'aurais rien du tout. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il était conscient qu'en vérité, sans Akadosh Baruch Hu, il vaut rien. Rien du tout. Il était mamash comme afar, comme effer, comme la poussière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la force d'Avraham Avinu, la qualité d'Avraham Avinu, c'est qu'il a été capable de décomposer son corps, de décomposer sa personne. Imaginez-vous si dans notre vie, on aurait été capable de décomposer notre vie et de dire voilà, si je n'avais pas eu mes parents, si je n'avais pas eu mon école, si je n'avais pas eu ma femme, si je n'avais pas eu mon entourage, comment j'aurais été? D'accord? Imaginez-vous si on était capable de décomposer juste ça. D'accord? Alors, on serait parti loin. Seulement, on ne le fait pas. Et bien la force d'Abraham Avinu, expliquer le Magui de Mazérite, c'est que lui, il a réussi à décomposer sa vie. Et quand une personne décompose sa vie, automatiquement, il apprend à apprécier ce qui l'entoure et il apprend qu'en vérité, lui, tout seul, il n'est rien du tout. Il apprend que même si, je veux dire, l'élément essentiel, c'est lui, parce que c'est comme la terre qui est l'élément essentiel de la table, mais il comprend qu'en vérité, la terre, sans les trois éléments qui est autour, c'est de la cendre. La cendre, c'est rien, tu fais rien avec, tu la jettes. Ça, c'est la force dans la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la raison pour laquelle on va essayer de comprendre les sphirotes, parce que quand on va comprendre la structure, automatiquement, on va savoir apprécier où on se situe par rapport à tout ça. On va réussir à décomposer notre personne. Ça, je pense, c'est très important. Vous voyez ce que je veux dire? Je reprends? C'est bon? C'est bon. Un peu compliqué?
Non, c'est bon.
Alors, dis dans les mots. Car, Alderich Machal, je reprends deux lignes avant la fin. On a commencé tout à l'heure. Car, Alderich Machal, Amar Avram Avinu à la vache, alors, comme ça, Avram Avinu a dit, Amidat, Amidat Achesed, Ve'avash, Amirabo, ou Louvechet, le Goukou. Comme ça, Avram Avinu a dit sur sa mida, la mida de Chesed, qui était dans son corps. Il était, comme on l'a dit, il était l'ambassadeur de Chesed. Av, Shehihi, Midata, Ava, Vechesed, Alion, Shebat, Silut, Emervinishmato, Shotamer Kavalion, Afalpiken. Berit, Alemat, Alitlavesh, Begou, j'ai expliqué ça à l'oral. Aliedeit, Ishtal, Shilut, Alamot, Medregal, Medrega. Aliedeit, Intsumim, Rabim, En, Er, En, Dimion, Ve'erer. Mahout, Or, Ava, Meirbo. El, Mahout, Or, Ava, Vechesed, Alion, Shebat, Silut. Voilà ce qu'il dit Avram Avinu. Il dit, moi, je suis conscient. Que finalement, moi, ce que je suis par rapport à Kadosh Baruch Hu, je suis comme de la cendre, je suis rien du tout par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et en vérité, si on devait comparer par rapport à ce qui se passe chez Kadosh Baruch Hu, c'est rien, je suis comme de la cendre, je vois rien du tout. Et donc, automatiquement, c'est comme ça qu'Avram Avinu, il réussissait à être humble. Alors, il y a une sirah du Rabbi qu'on avait fait une fois dans un cours de Shabbat après-midi, qui parle de l'humilité de Moshe Rabbeinu. Vous savez, il y a une autre personne dans l'histoire sur laquelle on dit qu'il était humble, c'est Moshe Rabbeinu. On dit que Moshe Rabbeinu, il était humble. Alors la question que pose le rabbi, il pose la même question. Il dit, mais ça veut dire quoi qu'il était humble? Ça veut dire qu'il se prenait pour rien du tout? Ben, c'est pas normal, un dirigeant, il peut pas se prendre pour rien du tout. C'est comme si, imagine-toi, tu as un parent, on est tous dirigeants quelque part, dirigeants de sa famille, dirigeants, d'accord?
Oui.
T'as un parent qui vient et dit, je suis rien du tout. Ben, si, il se prend pour rien du tout.
Pour être reconnu, il faut un minimum.
Il faut un minimum.
Ouais.
Alors comment on fait? Comment il peut dire Moshe Rabbeinu? Comment Moshe Rabbeinu, on peut dire que Moshe Rabbeinu, il était humble? D'accord? Alors, c'est intéressant parce que dernièrement, on a appris, vous savez, pendant le Homer, on étudie la Gemara Sota, parce que dans la Gemara Sota, il y a 49 pages. D'ailleurs, on l'a mis ici avec la traduction de Dvar Malchut. Et récemment, c'était il y a deux semaines, le 8 Pessah, on a appris là-bas, il y a une Gemara qui parle justement, dans Dafé, je crois, qui parle de l'humilité. Elle dit comme ça. Donc elle dit, est-ce qu'une personne doit être humble à 100%? Alors, il y a un premier avis dans la Gemara là-bas, qui dit qu'une personne, un Talmid Racham, il doit se travailler sur son humilité, mais il doit avoir au moins
un
huitième de huitième.
Un soixantième, c'est ça.
D'accord ?
Un soixante-quatrième.
Shminit Shibi Shminit.
Soyons précis.
Il doit avoir un soixante-quatrième, Shminit Shibi Shminit de Gava. Comme ça dit la Gemara là-bas. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il explique Rachid là-bas ? Rachid dit parce que si le Talmid Racham n'a pas au moins un soixante-quatrième de Gava, d'orgueil, les gens ils vont pas le respecter. Et s'ils vont pas le respecter, ils vont pas l'écouter. Donc c'est pas pour lui en vérité, c'est pour qu'on l'écoute, c'est pour qu'on écoute la Torah qu'il contient.
C'est une forme de dignité, quoi.
C'est une forme de dignité, une forme de respect,
de
d'accord.
Dignité qu'il faut avoir.
Ça c'est un premier avis. Après il y a un deuxième avis dans la Gemara là-bas, c'est Rav Papa, qui dit, Rav Papa il a dit, même ça il faut pas avoir. Et bien maintenant on raconte qu'il y avait des histoires dans la Gemara, des gens comme ça de Chachamim qui se faisaient écraser et qui disaient rien. Et même il y en a qui sont partis jusqu'à dire que celui qui se fait écraser et qui dit rien et... Il a un mérite extraordinaire. D'accord ? Bon, alors ça veut dire quoi maintenant ? Je reprends Moshe Rabbeinu. Quand on vous dit que Moshe Rabbeinu était humble, est-ce que Moshe Rabbeinu, Béhémet, était humble d'après vous ? Parce qu'on a vu dans l'histoire que c'était un petit toutou et qui se faisait écraser comme n'importe qui. Pas du tout.
Non.
Est-ce que vous avez des exemples ?
Non, mais il s'est opposé.
Il s'est opposé à quoi ?
Bah, la première histoire, c'est qu'il s'est opposé au fait qu'il a tapé son ami.
Avant déjà. Avant. Première chose.
S'opposer à...
Dieu l'envoie. Dieu lui dit tu vas aller pour libérer les enfants d'Israël. Qui suis-je? Est-ce que moi je vais aller?
Mais ça c'est l'humilité.
D'accord. C'est l'humilité ça?
Non. C'est l'humilité qui je suis pour y aller.
Dieu te dit vas-y.
On va dire qu'ils sont opposés à Dieu comme
non,
là.
Non, c'est pas une question d'être opposé à Dieu. C'est on dirait qu'il y a un manque de Emouna.
C'est quoi cette histoire? Après ça continue. Après Dieu l'envoie, bon, ça se passe pas très bien parce que le Israël apparemment il souffre plus. Moshe Rabbeinu il va voir un Kadosh Baruch Hu, il lui dit mais où tu m'as envoyé? Regarde, je les ai amenés en galère. Attends, je continue. On continue dans l'histoire, ils vont sortir. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, d'abord, il va s'opposer à Paro. Il va se battre avec Paro. Après, on va sortir, on va aller dans le désert. On va voir comment Moshe Rabbeinu, il va devoir se battre même des fois contre son peuple. Comme on va voir dans l'histoire des explorateurs. Comme on va voir dans l'histoire du Vaudor. Comme on va voir dans beaucoup d'histoires. Dans l'histoire de Korach. Korach. Il vient briguer son poste, Korach. On va voir que Moshe Rabbeinu, il va dire, tu verras, Dieu va dire, c'est qui le patron? Enfin, ça, je veux dire, il a une personnalité. Mm-hmm. Alors, comment la Torah peut témoigner à la fin du Chumash que Moshe Rabbeinu était la personne qui est de plus humble de la terre? Il y a un problème. Il n'est pas humble. Voilà comment le Rabbi explique. Il dit, parce que ça, ça vient d'une erreur. Les gens, dès qu'ils entendent le mot humble, ils se disent que humble, ça veut dire, t'as un petit toutou, tout le monde t'écrase. Il dit pas du tout. Ça, c'est pas bon, ça. Parce que tu dois avoir une certaine personnalité.
Non, mais humble, c'est tirer profit pour lui.
Non, ça change pas. C'est quoi l'humilité?
Oui, c'est ça.
Le Rabbi dit, c'est très simple. C'est quoi l'humilité? C'est que Moshe Rabbeinu, bien sûr qu'il a assumé son poste. Et qu'un dirigeant, ben, il doit assumer son poste de dirigeant. Il ne peut pas être là.
Mais il se dit que n'importe qui à ma place aurait fait aussi bien.
Mais il se dit comme ça, non.
Même pas.
Il se dit, si une autre personne avait les mêmes qualités que moi, il les aurait certainement mieux utilisées que moi. Ça, c'est l'humilité. Tu veux dire comme ça, tu ne peux pas venir, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui est riche et qui dit non, je suis pauvre.
Non.
Ça ne marche pas. Comment si t'es riche, t'es riche, t'es pas pauvre.
Est-ce que quelqu'un
est intelligent qui va dire non, mais je suis bête? Non, t'es pas bête. T'es intelligent. Ah, pourquoi tu dis je suis pauvre? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire non. Il faut dire, si Akadosh Baruch Hu avait donné les mêmes qualités que j'ai, il les avait données à quelqu'un d'autre, il les aurait certainement mieux utilisées que moi. Donc, c'est pour ça que je me sens petit. Parce que je me dis, par rapport au cadeau que Dieu m'a donné, par rapport à l'outil que j'ai, bah, finalement, je suis pas si grand que ça, proportionnellement.
Est-ce que j'utilise
et que d'autres qui ont des outils beaucoup moins évolués que moi, bah, ils ont fait beaucoup plus, proportionnellement. Voilà comment on peut arriver à l'humilité. Voilà comment n'importe quelle personne peut arriver à l'humilité. C'est un chidouche du Rabbi, ça.
Ouais.
D'accord ?
En même temps, si on m'a donné ces outils, si Dieu m'a donné ces outils, c'est quelque part que je suis en mesure
de... Je suis capable d'en servir, bien sûr.
Je suis capable de m'en servir, je suis
apte. Mais ça n'empêche pas que je reste humble. Pourquoi je reste humble ? Parce que je me dis, si une autre personne avait mes qualités, il les aurait certainement utilisées mieux que moi.
Ce que tu en as fait...
C'est ce qu'il disait lorsqu'il a fait la vision qu'il a amenée à l'époque de Rabbi Shimon, je crois. C'est pas qu'on a dit pour Rabbi Akiva qu'il a amené, c'est ça, il a dit...
C'est encore autre chose. C'est pour ça que... On va donner un exemple. C'est comme si, par exemple, tu vois, tout le monde autour de toi, il roule avec des petites voitures de chevaux, d'accord ? Et toi, t'as une grosse voiture. Bien sûr, tu les dépasses. Mais ça ne change pas que tu dis, eux, par rapport à ce qu'ils avaient, ils sont dépassés. Alors que toi, t'es très très loin de ce que tu peux faire. Donc voilà comment on peut rester humble tout en dépassant les autres. Voilà comment Moshe Rabbeinu, bien qu'il dépassait le peuple, d'accord ? Bien que Moshe Rabbeinu dépassait le peuple, il était beaucoup plus haut que le peuple, ça ne l'empêchait pas de rester humble. C'est extraordinaire. Et bien, c'est exactement la même chose que sentait Avraham Avinu, qui va expliquer ici. Avraham Avinu, comment il peut se sentir comme la poussière, comme la cendre ? Parce qu'Avraham Avinu, il a réussi à décomposer son corps. C'est-à-dire quoi, décomposer ? Il dit, ok, Dieu m'a donné des talents, Dieu m'a donné beaucoup de choses. Il y a le feu, le vent, l'air, de la même manière. C'est quoi la cendre ? La cendre, ça veut dire on a tout décomposé, on a enlevé toutes les aides extérieures, et tu restes maintenant avec le brut, ce que tu es vraiment. C'est ce qu'a fait Avraham Avinu. Il a dit, bon, tu sais quoi ? Je vais me décomposer, je vais enlever tout ce que Dieu m'a donné. Je vais faire comme si, voilà, je vais enlever toutes les qualités que Dieu m'a donné. Finalement, qui je suis ? Je suis rien. Voilà comment Avraham Avinu peut dire, va nourrir, afar, va effer. Je suis comme la poussière, je suis comme la cendre. D'accord ? Voilà comment Avraham Avinu a pu dire ça. C'est comme ça que le Rabbi explique aussi, dans le Yul Ratzon qu'on fait à la fin de la Tila, on dit, ve nafshi ke afar, qu'est-ce qu'on dit ? La col tillée. On demande à Kadosh, je vous traduis parce que je pense que les gens ils font pas spécialement attention à ce qu'ils disent. Enfin, en tout cas, on connaît pas spécialement. On avait fait un cours sur ça une fois, dans le cours mercredi matin. Je vais vous traduire. Alors, Elokai, mon Dieu, Netzor Leshoni Mera, empêche ma langue de dire des bêtises, Vesiftotai, Midaber Mirma, et mes lèvres de dire des choses qui ont tendance à arnaquer les gens. Velimkalelai, Nafshitidom. Qu'à ceux qui me maudissent, mon âme se taise. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui t'insulte, t'as envie de lui répondre. Donc je demande à Kadosh Baruch Hu, je dis voilà, d'abord Dieu, aide-moi à ne pas dire de bêtises. Aide-moi à ne pas arnaquer les autres. Aide-moi à ne pas répondre à ceux qui m'embêtent, ceux qui me maudissent. Venafshi kaafar la coltier. Et que mon âme soit considérée comme de la terre pour tout le monde. Après, continuons, demande à Kadosh Baruch Hu après de nous aider dans la Torah. C'est, je crois que mon âme soit considérée comme délétère pour tout le monde. Comment vous comprenez ça? Si on prend le sens simple, on comprend, ben ça veut dire que je demande à Dieu que tout le monde m'écrase.
Non.
D'accord?
Tu essaies de pas retrouver ton essence.
Ce qu'on vient de dire ici? Pas du tout. Ça veut pas dire que, ça veut pas dire qu'on m'écrase. Ça veut dire que j'arrive à l'humilité. Je suis en train de demander à Kadosh Baruch Hu pour l'humilité. Et que quand on a l'humilité, automatiquement, ça ne nous dérange pas. Automatiquement, beaucoup moins nous dérange. On raconte une histoire avec un des élèves du Rabbi Rachab. Une fois, il est venu voir le Rabbi. Il a dit, Rabbi, dans mon Beit HaMidrash, dans la synagogue où je prie, on ne me laisse pas de place. Les gens, ils m'écrasent. Alors le Rabbi Rachab, il lui a répondu, il lui a dit, c'est normal, partout où il marche, tu es là en dessous. C'est une image. Ça veut dire, voilà, quand on dit, Benafshi Kafar Lakoltiye, ça veut dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on ait réellement de l'humilité. Et qu'on se sente comme de la poussière par rapport à tout le monde. Comme Abraham Avinu. Qu'on arrive à décomposer notre vie et ne pas arriver à l'orgueil. Alors après, on continue. Après, il demande à Kadosh Baruch Hu, Ptach libi betora tera, Kadosh Baruch Hu, ouvre mon cœur dans ta Torah. Vachare mitzvot terka tirdof nafshi. Et que mon âme court toujours vers les mitzvot. Et ça, le Rabbi il explique comme ça. Il dit que pour que mon âme soit réellement intéressée par la Torah, que je sois réellement intéressé par les mitzvot, il faut d'abord passer par l'humilité. Si j'accorde trop de place au matériel, automatiquement, je ne suis pas intéressé par la Torah et les mitzvot. Pour accorder de la place au spirituel, il faut d'abord que je relativise l'importance du matériel et que je comprenne que le matériel n'est pas très important. Pas qu'il n'est pas très important, mais que finalement, il n'est pas essentiel. C'est-à-dire que si je décompose tout, c'est comme la cendre par rapport à la table. D'accord ? Voilà le sentiment qu'avait Abraham Avinu.
Mais à la fin, s'il ne reste que la terre, c'est-à-dire que finalement, pour soit Abraham Avinu ou ouais. N'importe quel... on arrive au même niveau. Si l'essentiel, ce qui reste, c'est la terre. Il n'y a pas de comparaison entre terre et terre.
Oui, mais la différence entre Abraham Avinu et nous, c'est que nous, on ne le ressent pas, ça.
On n'est pas apte.
On n'est pas apte.
On n'arrive pas à enlever les autres éléments.
Je sais qu'une fois, on m'avait dit une fois que les scientifiques ils disent que toute la matière du monde, on pouvait la rassembler.
Dans une épingle, c'est ça.
C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en vérité, tout ce qu'on voit, c'est du bluff. C'est pas du bluff. Mais c'est. Hein, c'est de l'énergie. D'accord ? Mais on le voit pas, ça, nous. Parce que moi, je touche l'énergie, je m'en rends pas compte. Et pourtant, c'est le cas. C'est ce qu'il explique ici. Il dit que la force d'Abraham Avinu, c'est qu'il était capable de décomposer sa personne. Et quand une personne décompose sa personne, automatiquement, il comprend qui il est vraiment. Et quand il comprend qui il est vraiment, alors automatiquement, il comprend qu'il n'y a pas lieu d'avoir d'orgueil. Voilà comment Abraham Avinu travaille sur son orgueil. Encore une fois, la raison pour laquelle on va parler des sirotes, c'est parce que quand on va comprendre la structure de notre personne, quand on va réussir à décomposer notre personne, on va comprendre qui on est vraiment. On va comprendre finalement que tout ce qui est censé nous amener de l'orgueil, en vérité, il n'y a pas du tout d'orgueil. Alors, maintenant, je vais sauter quelques lignes encore. On va prendre avec Rol Prata Midot. Maintenant qu'on a compris ça, on va rentrer dans les détails des Midot. D'accord ?
Vas-y. Il parle de poussière et de terre.
Oui.
De poussière et de cendre. Pourquoi préciser les deux ?
Très bonne question. Alors, parce qu'Avram Avinu, il a dit, va nourrir Afar, va Efer. Il a dit, je suis de la terre et de la cendre. Pourquoi il dit, je suis de la terre et de la cendre ? Parce qu'en vérité, on n'est que de la terre. En vérité, ce qui est le plus important, c'est la terre. C'est l'élément terre qui est en nous. Seulement, comme Avram Avinu, il sait que si tu veux dire à quelqu'un, tu es de la terre, tu vas t'adresser à nous, tu vas dire terre. Il ne va pas comprendre, il dit, mais non, je ne suis pas de la terre, je suis une composition.
La cendre, c'est la combustion.
Il te dit que pour arriver à la conclusion qu'il était Afar, il a dû faire comme Efer. Ça veut dire qu'il a dû se décomposer. La même méthode qu'on fait quand on brûle quelque chose. C'est-à-dire que pour comprendre que je suis que Afar, il faut d'abord passer par Efer. Voilà comment Avram Avinu a fait. Ok. Donc, je reprends. La semaine dernière, on a expliqué pourquoi il fallait parler des sphirotes, parce qu'on a expliqué que quand je vais comprendre comment mon corps fonctionne, je vais comprendre comment le monde fonctionne. Quand je veux comprendre comment le monde fonctionne, je veux comprendre comment moi je fonctionne. Ok, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Maintenant, il rajoute encore un élément. Il dit pas seulement ça. Il dit, le fait qu'on va essayer maintenant de décomposer le monde et de décomposer notre personne, c'est pour apprendre à savoir qui on est vraiment. Et comme dans l'exemple qu'on a donné de la décomposition de la table, quand tu vas la décomposer, tu vas voir que finalement, c'était que de la cendre. Et donc, tu vas voir que finalement, il n'y avait pas lieu d'avoir de l'orgueil. Tu vas apprendre à savoir qui tu étais vraiment. Ok. Donc maintenant, on va commencer à décomposer notre personnalité. Vous êtes prêts ? C'est bon ? Et quand on va décomposer, on va faire un petit peu la même méthode qu'Abraham Avinu a fait. D'accord ? On va essayer de voir finalement, on va décomposer, on va voir qu'est-ce qui reste à nous à part tout ça. Alors, on va rentrer dans les mots. Excusez-moi, je prends le... Voilà. Alors, on fait... Hein, on va faire Veiné Klalout à Yutsirot. Veiné. Vous avez Veiné? C'est la, ça commence... Nouveau paragraphe. Veiné. Veiné, il dit, il explique ici... Maintenant, on va essayer de décomposer justement notre corps, notre structure. Veiné. Klalout à Yutsirot chez Benishmat Adam. De manière générale, dans l'homme, chez chacun des hommes, on retrouve 10 sphirotes. 10. Dans le Homer, on va se focaliser sur 7. On va expliquer pourquoi. Ça, il dit, bon, Noda Lakol. Il dit, le nom des 10 sphirotes, tout le monde les connaît. Il va développer, c'est quoi ? Shamidot, Nechlakot, Bedechel, Zainmidot. Quand on parle de sphirotes, on a 3 sphirotes intellectuelles qui représentent l'intellect et 7 sphirotes qui représentent les sentiments. D'accord ? Donc 3 qui représentent l'intellect, 7 qui représentent les sentiments. Il va expliquer dans les détails. On va commencer par le plus simple. Shamidot, Nechlakot, Bederechlal, les Aïmidot. Les Midot, les traits de caractère, les sentiments. Alors voilà, j'ai des sentiments, mais est-ce qu'on peut catégoriser les sentiments ? Est-ce qu'on peut catégoriser les sentiments ? Selon la Kabbalah, oui. Quand on catégorise les sentiments, on va arriver à 7 catégories de sentiments. C'est très important, parce que quand je vais réussir à catégoriser les sentiments, automatiquement, je vais savoir quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles. Et dans chacun de ces sentiments, dans chacun de ces 7 sentiments, il y aura peut-être un élément qui sera plus dur que l'autre. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on va prendre Chesed, la bonté. J'ai une de 7 catégories, ce sera la bonté. Dans la bonté, il y a plusieurs éléments. Il y a la bonté envers ce que je dois donner, et la bonté envers ce que je ne dois pas donner. Par exemple, quand j'ai quelqu'un qui me demande de l'argent, et que je sais qu'il va acheter de la drogue avec, je préserve, je vais lui donner de l'argent. Ça peut s'apparenter à du chesed, c'est dans la catégorie bonté. Mais en vérité, est-ce que c'était de la bonté ? Non, c'est pas de la bonté, c'est de la rigueur. Donc il est dans la mauvaise catégorie, il faut le mettre dans la catégorie rigueur. Seulement ça s'appelle la bonté de la rigueur. D'accord ? Quand vous allez prendre par exemple le contraire, j'ai mon enfant qui est en train de jouer avec un couteau. D'accord ? Et il ne veut pas lâcher le couteau, je vais devoir le frapper sur sa main pour qu'il me donne le couteau. Je l'ai frappé, donc c'est de la rigueur. Oui ? Mais pourquoi je l'ai fait ? Je l'ai fait pour son bien. Donc dans quelle catégorie je dois le mettre ?
Dans la bonté.
D'accord ? Donc maintenant, ce qu'on va essayer de voir, d'abord on va faire 7 catégories. C'est très important de catégoriser parce que ça va nous permettre de savoir nos points forts et nos points faibles. Et pas seulement ça, dans chacune de ces catégories, on va comprendre qu'il y a des aspects bons et des aspects mauvais. Comme ce que je viens d'expliquer. Par exemple, donner à un enfant qui s'est bien comporté, c'est la bonté de la bonté. D'accord ? Par contre, donner à une personne, frapper l'enfant pour lui enlever le couteau, ça c'est la rigueur de la bonté. C'est toujours de la bonté, mais c'est de la rigueur de la bonté.
C'est pour trouver.
Et donc, je peux voir que par exemple, j'arrive facilement à donner des cadeaux, donc la bonté de la bonté, mais j'ai du mal à réprimander pour le bien de quelqu'un. Donc, on va voir que dans chacune de ces 7 catégories, on va retrouver 7 sous-catégories. Donc 7 fois 7 est égal à 49. On va rentrer dans les détails. Et c'est ça ce qu'on fait dans le Homer. Chacun des jours du Homer correspond à un de ces traits de caractère. Parce que rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. Les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, là maintenant, pendant les 49 jours du Homer, ils se préparent à Matan Torah, à recevoir la Torah. Mais il n'y a pas de mitzvot encore. Alors sur quoi ils se travaillent ?
Sur les mitzvot.
Sur les traits de caractère. Ils essayent d'avoir des traits de caractère les plus parfaits possibles. Chaque jour, chacun va essayer de travailler sur quelque chose. Vechol pratea midot sheba adam. Donc il développe. Tous les sentiments, tous les traits de caractère qu'on peut avoir chez une personne. Et on sait très bien qu'il n'y a pas une personne qui a le même trait de caractère que l'autre. Impossible. Ba'ot me'achat me'zay midot elou. C'est forcément un mélange qui vient de ces 7 catégories. Shehen shorash kol ha'midot ou klalutan. C'est finalement la racine, c'est comme les couleurs. Les couleurs, il y a 3 couleurs. Et bien dans les traits de caractère, il y en a 7. Et le mélange de ces 7 va faire tous les caractères qu'on connaît aujourd'hui. Shehen. Quelles sont ces 7 catégories ? Donc on parlera après des trois, je peux vous les dire tout de suite si vous voulez, des 3 catégories intellectuelles. C'est Chochma, Bina, Da'at. On l'avait déjà développé dans la première partie du Tania, ça fait 3 ans. Donc on l'avait développé que les 3 catégories intellectuelles. Chochma, Bina, Da'at. Donc on a la capacité de trouver des idées, la capacité du développement, d'accord ? Et la capacité de s'attacher intellectuellement avec quelque chose. 3 choses. 3 qualités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Vous avez des gens, c'est les génies, qui trouvent des idées très rapidement. Vous avez des gens qui sont très forts pour développer des idées. Développer les idées des autres, et vous avez des gens qui sont très forts pour s'attacher à des idées. C'est 3 choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. 3 qualités intellectuelles. Mais là, maintenant, on va s'arrêter nous sur les 3 qualités
sentimentale. Sur les sept qualités, pardon, sentimentales. Alors, il développe. Shehen. On va les citer. C'est quoi ces sept qualités? Numéro 1. Midat al-Chesed. Numéro 1, la première midat, c'est quoi? C'est la Chesed. Chesed, c'est quoi? C'est la bonté. La bonté, par définition, ça veut dire quoi? Ça veut dire Lehashpia Blikvul. La bonté, par définition, elle dit il faut donner. Sans limite. Ça, c'est la bonté. Ok? Donc, on a, première catégorie, c'est la bonté. C'est facile, ça. La bonté, c'est donner, c'est, on a expliqué, c'est des fois même enlever pour donner, comme je vais enlever le couteau à l'enfant, parce que, en vérité, je suis en train de lui donner quelque chose. Ok. Vous savez quoi, je ne veux pas vous compliquer, on va d'abord donner les sept catégories générales, après, on va essayer de développer les sous-catégories. D'accord. Et c'est ça ce qui fait, c'est ça ce qui forme la complexité de l'homme. Et comment, des fois, on a du mal à savoir si ce qu'on fait est bien ou pas bien. Mais bon, d'abord, on va donner les sept catégories. Catégorie numéro 1, on a dit, c'est quoi?
Chesed,
la bonté. D'accord. Deuxième catégorie. C'est quoi la deuxième catégorie? Alors, deuxième catégorie, prendre mes mots, Umidat Agvura.
La rigueur.
C'est quoi la deuxième catégorie? C'est la rigueur. Quand on dit rigueur, ça ne veut pas dire méchanceté. Rigueur, ça veut dire le tsamtsem de réduire, de compresser, ou le milashpia kolkach. Quand on dit rigueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner le moins possible. O, chez l'olehashpia, klal. Quand on dit rigueur, ça veut dire soit donner le moins possible, le strict minimum, soit ne pas donner du tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, une personne qui est rigoureuse, soit même quand il devra donner, il donnera vraiment comme une barre, quoi, il n'aura rien du tout, soit il donnera pas du tout.
Ça ne veut pas forcément D'accord dire ça.
Si?
Non, la rigueur, ça peut aussi t'éduquer à donner régulièrement.
J'ai compris. Là, d'abord, encore, le problème, c'est quoi?
Ouais.
C'est que toi, tu es en train de rentrer maintenant dans
les sous-midas.
Ah oui.
Ouais,
d'abord, on rentre dans les sept catégories.
Être rigoureux, c'est répondre à un cadre.
Être rigoureux, ça veut dire que ça doit rester dans le cadre et ça ne peut pas dépasser le cadre. C'est ça, la rigueur. Parce qu'en hébreu, on dit que chesed, c'est comme la main droite qui donne, d'accord? Gvura, c'est la rigueur, c'est comme la main gauche qui reprend, qui se ferme. Donc, un qui donne, l'autre qui reprend.
Ouverture, fermeture.
Ouverture, fermeture.
D'accord.
Plus, moins.
C'est l'explication aussi de la diarrhée finie.
Oui, oui, oui.
Et une plus courte que
l'autre. Une plus courte que l'autre, oui. Il n'y a qu'à l'autre comme ça, c'est vrai. D'accord? Ça, c'est la rigueur. Donc, on a la bonté, la rigueur. La bonté qui te dit, il faut donner nos limites. Sans limites. C'est-à-dire sans distinction, sans réfléchir à ce que la personne, tu lui fais du bien finalement en lui donnant. La rigueur, de l'autre côté, qui te dit, il ne faut rien donner. Il faut donner le strict minimum et il a qu'à se débrouiller, chacun se débrouille tout seul. Ensuite, on a la troisième catégorie, c'est quoi? C'est Mida Tarachamim. C'est la Mida de la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, comme on m'avait expliqué, c'est un peu comme Tif Eret. Tif Eret, c'est l'harmonie. C'est-à-dire, c'est un peu les deux. Il explique ici. Les Rachem, al Mishayach, Lashon, Rachmanut, Alav. Tu as d'un côté la bonté. La bonté, il te dit, il faut donner à tout le monde. Même à ceux, a priori, qui ne méritent pas. La rigueur, qui elle te dit, non, celui qui ne mérite pas, il ne faut pas du tout lui donner, ou vraiment lui donner le strict minimum. Voilà, c'est la politique, hein, on a... La bonté qui dit, il faut donner à tout le monde, on donne. La rigueur qui dit, non. D'accord? La France forte.
Et on creuse le déficit.
La rigueur te dit, pas du tout. On donne seulement à ceux qu'on doit donner. Tu sais, celui qui est au milieu, c'est Rachamim. C'est quoi Rachamim? Rachamim, celui qui veut dire, bon, ok, c'est vrai qu'il y a certaines personnes à qui, normalement, on ne devrait pas donner. Mais dans certains cas, il faut quand même faire appel à la miséricorde. Attention, c'est pas chesed. La chesed, c'est la bonté, on dit on donne sans regarder. C'est pas de ça qu'on parle. J'ai pas dit que je donne sans regarder. Je regarde, je fais attention à ce que je donne. Normalement, je devrais pas donner. Mais des fois, il faut être capable d'avoir la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Ça veut dire, je dis, bon, c'est vrai que je devais pas te le donner, mais je vais quand même te le donner.
Ça s'oppose à la rigueur?
Bien sûr. 100%. Parce que la rigueur, elle te dit, il ne mérite pas, il ne faut pas lui donner.
Il est cartésien, la rigueur.
Faites cadeau. Rachamim, il te dit, je suis conscient, je ne suis pas comme le chesed qui lui dit, je donne sans regarder. Je ne suis pas comme la rigueur qui te dit, je ne donne pas parce qu'il ne mérite pas. Ça veut dire, le problème de la bonté, celui qui a la bonté, c'est qu'il ne voit pas les défauts. Le problème de la rigueur, c'est qu'il ne voit que les défauts. La solution de la miséricorde, c'est celui qui va dire, je vois les défauts, d'accord? Je vois que normalement je ne devrais pas donner, mais dans certains cas je vais quand même être miséricordieux. C'est-à-dire que je vais quand même donner tout en étant conscient des qualités. Et en étant conscient que normalement je ne devrais pas donner. C'est un peu un mélange entre les deux.
D'accord ? Un mélange entre Chesed et Gvura. C'est l'harmonie. Donc on a déjà trois catégories ici. On a la première catégorie, c'est la bonté. Deuxième catégorie, c'est la rigueur. Et troisième catégorie, c'est la capacité qu'un homme a d'harmoniser sa vie. De rendre sa vie harmonieuse. Harmonieuse, ça veut dire d'être capable de faire justement ce fameux mélange. Ce qui fait la beauté de, ce qui fait la beauté de la nature. De faire le mélange. On a déjà trois catégories. D'accord ? La troisième catégorie, c'est une catégorie à part entière. Parce que, c'est, comme j'ai expliqué, c'est la première. Le premier, il ne voit pas les défauts. Le deuxième, il voit les défauts, donc il ne donne rien. Le troisième, il te dit... Le troisième, c'est au milieu. C'est-à-dire, j'ai vu les défauts, mais... J'ai vu les défauts, mais je vais quand même donner dans certains cas, parce que je suis miséricordieux. Donc, mipne vegam vehi mida memutseat, c'est une mida qui est au milieu, memutsa, donc comme le mot emtsa, ben gvura les chesed, entre gvura la rigueur, chesed la bonté. Shehi, le hashpi à la colle. Le chesed, c'est celui qui te dit, il faut donner à tous. Gam le michelo sheikh lachan rachmanut alaf klal. Même pour une personne pour laquelle il ne faut pas avoir pitié. Parce qu'il y a des gens pour lesquels il ne faut pas avoir pitié. Tu comprends, un bonhomme, il te fait ça 10 fois d'affilée, tu ne peux plus avoir pitié.
Mais Abraham, il donnait comme ça, sans... Ouais, sans mais comment...
Il était que
Chesed. Il était que Chesed, mais bon, il y a des défauts là-dedans.
Bien sûr qu'il y a un défaut, c'est ce qu'on va expliquer.
Oui, mais il ne voyait pas le mal, en fait.
T'as des gens, ils ne voient pas le mal.
Ah, c'est ça.
D'un autre côté, t'as des gens, ils voient que les défauts.
C'est pas qu'ils donnaient en sachant que la personne allait se faire du mal.
Il ne voyait pas. D'accord ? On dit comme ça. Chez Chassidim, on dit qu'il y avait le Baal Shem Tov, c'était comme ça. On dit le Baal Shem Tov, il voyait que le bien chez les gens. Mais l'Admor Hazakel, on dit lui, il voyait aussi le mal, mais il faisait des efforts pour quand même donner. C'est un peu comme ce qu'on va expliquer ici. Donc, on a expliqué, c'est quoi Avraham Avinu ? Avraham Avinu, c'est Chesed. Comme il dit ici. Chez il a HP à la colle. C'est quoi le Chesed ? Le Chesed te dit, vous avez dans les mots ?
L'HPIA, d'accord.
La ligne commence par l'HPIA. L'HPIA. L'HPIA, d'accord. Le chesed, il te dit, il faut donner à tout le monde. On donne à tout le monde, on fait pas de distinction. Est-ce que vraiment tout le monde doit recevoir ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont abusé du système ? D'accord ? Bon, on donne à tout le monde. Tout le monde, d'accord ? Sans faire distinction entre les immigrés, les autres, on donne à tout le monde. Voilà, c'est la politique. D'accord ? Ça, c'est chesed. Vous voyez que c'est pas si mal que ça, chesed. D'accord ? Maintenant, Gam le Michelo Cher, la chaîne Rachmanout à la Flal. La Gemara a dit qu'il y a des personnes pour lesquelles il ne faut pas avoir pitié. Une personne qui te détruit et qui fait exprès, il ne faut pas avoir pitié. Mais le Chesed, il ne voit pas ça. Il ne voit que du bien. Mipne, Sheino Chaser Klum, Veino Sharoui Betsar Klal. De qui il faut avoir pitié ? Il faut avoir pitié d'une personne qui en manque, d'une personne qui en a besoin. Mais quand tu as une personne qui n'a pas besoin de toi, tu n'as pas besoin d'avoir pitié de lui. De qui j'ai pitié ? C'est-à-dire que je ne peux pas avoir pitié de la même personne 10 fois par jour, tous les jours. La pitié, en général, ça arrive de temps en temps quand vraiment la personne est dans une situation catastrophique. La pitié, c'est comme... Je vous donne un exemple. La pitié, c'est comme on dit, par exemple, une personne qui a été jugée et que le juge a dit c'est fini, on l'envoie en prison, etc., prison à vie, et qu'à la fin, il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Je comprends, mais la grâce, ça ne se fait pas tous les jours. C'est vraiment... Quand vraiment on voit que c'est une personne de qui on a vraiment de la peine et qu'il a une famille et que c'est une fois dans la vie et que peut-être dans certains cas, ça veut dire que c'est vraiment entre les deux. C'est pas comme le chesed. Le chesed, il dit ouais, on donne. Rachamim, c'est pas comme ça. Le chesed, il te donne même à une personne pour laquelle il faut plus avoir pitié. Tu lui rends pas service en ayant pitié de lui. Ça, c'est le chesed. Ou le fichehi mida mimutsat, puisque la mida de Rachamim, la miséricorde, la troisième mida, l'harmonie. C'est une mida qui est en vérité au milieu. C'est pile au milieu entre les deux. Vous avez compris pourquoi ? Mm-hmm. Parce que c'est ni donc, trois à droite, ni trois à gauche. C'est Bérou, quoi. D'accord ? Alors, ni crête, ni ferrette. C'est ça, Bérou est au milieu ?
Il est vrai bien.
Hein ? Ni crête, ni ferrette. C'est appelé Tiferet. Pourquoi on l'appelle Tiferet ? Tiferet en hébreu, ça veut dire l'harmonie. Mais Tiferet en hébreu, ça veut dire aussi la beauté. Pourquoi on appelle ça la beauté ?
La beauté, la beauté.
Pourquoi ? On explique comme ça. Il dit Kemo Bigde Tiferet. Les vêtements dans la Torah qu'on appelle les beaux vêtements, c'est quoi ? Siou Beget Savoua, c'est un vêtement qui est coloré Bigvanim Arbe Meuravim, avec plusieurs couleurs mélangées. C'est quoi ? Qu'est-ce qui fait la beauté d'une chose ?
L'harmonie.
C'est l'harmonie. Quand tu prends un vêtement, tu lui mets une seule couleur. Bon, il a sa couleur. Mais quand tu prends dans un élément, tu vas lui mettre deux couleurs en même temps. C'est ça ce qui va faire l'harmonie, c'est ce qui va faire la beauté. C'est-à-dire que la beauté, c'est ni quand c'est blanc, ni quand c'est noir. C'est quand le blanc et le noir sont mélangés. C'est quand le chesed et le gvura sont mélangés. Voilà pourquoi Tiferet, qui en vérité ne s'appelle pas Tiferet, parce que la troisième catégorie, c'est Rachamim. Première catégorie, la bonté. Deuxième catégorie, la rigueur absolue. Troisième catégorie, on a dit, c'est la miséricorde. Ça veut dire, ni on est trop bon qu'on donne toujours à tout le monde, ni on est trop rigoureux qu'on donne jamais, on va être miséricordieux dans certains cas. C'est-à-dire qu'on va marier la bonté et la rigueur. Ce mariage de la bonté et la rigueur va faire comme un mélange harmonieux de couleurs qui s'appelle Tiferet. Tiferet, ça veut dire que c'est justement l'harmonie qui fait la beauté. D'accord ? C'est comme dans un couple. L'homme et la femme, c'est ce qui va faire la beauté. Quand l'homme va amener la qualité des hommes, les femmes vont amener les qualités des femmes, mais automatiquement, ça va faire un vêtement de couleur. C'est ce qui donne Tiferet, c'est ce qui donne la beauté. Machenken beged, bederer shi Tiferet venoy. Machenken beged, alors qu'un vêtement, atsavu abigavan echad. Un vêtement qui sera coloré d'une seule couleur. Loche arbo la chaîne Tiferet. Tu ne peux pas l'appeler un vêtement Tiferet.
C'est un uniforme.
C'est un uniforme. C'est pour ça que les vêtements du Kohen Gadol, on demande que les vêtements du Kohen Gadol devaient être Tiferet, devaient être beaux. Et c'est pour ça qu'on dit que comment étaient faits les vêtements du Kohen Gadol ? Ils étaient faits de telle manière. C'est que chacun des fils qui étaient tissés, était tissé de plusieurs fils de plusieurs couleurs. Et on les mélangeait ensemble. Et on dit que le rendu que ça faisait, c'est un rendu magnifique. Ça veut dire que c'est pas juste qu'on a pris un rouge et un bleu qu'on les a mis ensemble. C'est que d'abord, on a fait ça. Mais en plus, chacun des fils était lui-même inclus de plusieurs petits fils. Donc c'est ça ce qui fait la beauté. Ce qui fait la beauté, c'est quoi ? C'est justement quand t'as un mélange, quand t'as une harmonie. Quand t'as un beau mélange. Sinon, on peut pas appeler ça différent. Il faut avoir un mélange. Si t'as une personne qui est habillée tout en blanc ou tout en noir, c'est pas beau. Le mélange, c'est la beauté, c'est quand tu vas avoir le haut d'une couleur, le bas d'une autre couleur, ou bien dans le même vêtement, une partie d'une couleur, une partie d'une autre couleur. C'est ça qui fait la beauté. Va'acharkar be'bo'ashpa'a l'idema'ase. Donc après, lorsque la personne... Ok, donc maintenant, on a ici déjà trois catégories très importantes. Et en vérité, ces trois catégories, c'est des choses qu'on peut retrouver chez nous. Première catégorie, on a dit, c'est toujours donné. Deuxième catégorie, on a dit, c'est quoi ? Vura. C'est, on a dit, au contraire, ne pas donner. Donner vraiment ce qu'à celui qui mérite. Troisième catégorie, c'est quoi ? C'est donner seulement à celui qui mérite. Mais dans certains cas, avoir un peu des aspects chesed, ça veut dire de donner même à celui qui ne mérite pas. Bon. Là, on est seulement dans l'aspect décisionnel. J'ai pas encore donné. C'est dans l'aspect décisionnel, ça veut dire j'ai décidé de donner. Chesed, c'est celui qui décide de donner à tout le monde. Gvura, c'est celui qui décide de donner seulement à celui qui mérite. Et Tiferet, c'est celui qui va, dans certains cas, décider de donner, même à ceux qui ne méritent pas, en tant que miséricorde. Très bien. Maintenant, une fois qu'on était dans le décisionnel, maintenant on va passer maintenant à l'acte. D'accord ? On va passer à l'acte. Vous me suivez ? Ok. Donc on va continuer dans les midot. Vecharkar, ensuite. Bevoashpa'a l'idemaase. Lorsque ce que j'ai décidé de donner va venir à l'acte. Donc on a dit que quand je décide de donner, il y a trois possibilités. Soit je donne tout, soit je donne seulement à celui qui mérite, soit je donne à celui qui mérite, et dans certains cas, je donne également à ceux qui ne méritent pas. Ok. Une fois que j'ai décidé ça, Deinu, ça veut dire. Besha, tashpa, mamash. C'est-à-dire que quand maintenant, je vais effectivement donner. Tarikh l'itiaet. Je vais devoir réfléchir. Ech l'ashpia, bederech, shiyucha la mekabel, lekabel ashpa. Même si j'ai décidé de donner. Après, je vais devoir réfléchir comment je vais le donner. Ça veut dire comme ça. Tu as un premier parent qui est un parent très strict, qui est très chesed. Ça veut dire qu'il dit, moi je donne plein de cadeaux à mes enfants. T'as un deuxième qui dit non, moi je donne les cadeaux seulement quand ils méritent vraiment, vraiment, vraiment. T'as le troisième qui va dire, bon, je donne quand ils méritent, mais de temps en temps, bon, ça va, il faut donner quand même s'ils ne méritent pas. Ça, c'est l'aspect de la décision. Mais après, une fois que tu as décidé, tu vas réfléchir, même celui qui a décidé de toujours donner, tu vas réfléchir comment donner le cadeau de la meilleure manière possible. Donc on va passer à l'acte. Ok. Alors, il donne un exemple. Kegon, par exemple. J'ai envie d'enseigner quelque chose à mon fils. Quand je dis mon fils, ça veut dire quelqu'un qui est beaucoup plus bas que moi. J'ai mon fils qui a 3 ans, et je veux lui expliquer quelque chose. Si je lui explique à l'état brut, tel que c'est dans mon cerveau, tel que moi je le comprends aujourd'hui, il va rien comprendre. Je vais être obligé de lui adapter. Alors encore une fois, on aura toujours les mêmes, les trois premières approches qu'on a eues. C'est-à-dire celui qui va dire j'enseigne tout à mes enfants, celui qui va dire je leur enseigne seulement ce qu'ils ont besoin maintenant, et celui qui va dire bon dans certains cas il faut être miséricordieux. Mais même dans les trois cas, une fois que j'ai eu la décision, je vais réfléchir comment je vais lui donner. Ça veut dire que j'ai un plan dans ma tête ce que je veux faire, mais c'est pas pour autant que je vais tout donner maintenant. Je vais réfléchir comment je vais le faire. Alors, si je vais tout lui donner, tel que moi je le comprends maintenant, l'enfant ne pourra rien comprendre. Si je vais expliquer maintenant ce que moi j'ai compris après des années de réflexion, des années d'études,
il ne va pas comprendre.
D'accord ? Pourquoi il ne va pas comprendre ? Bah, d'abord parce que son cerveau n'est pas aussi évolué, en plus parce que moi c'est un résultat de plusieurs années de réflexion, de plusieurs années de travail. Rak seulement. Donc tu devras obligatoirement lui présenter différemment. Pour lui présenter différemment, tu vas devoir réfléchir comment lui présenter. Bien sûr, ça se prépare. Hein, d'accord ? Quand je vais enseigner quelque chose à quelqu'un qui n'est pas mon niveau, ça se prépare. Comment lui enseigner ? Davar dibour alofanav. Ça veut dire que je vais d'abord structurer ça. Quand je dis structurer, ça veut dire quoi structurer ? Ça veut dire que je vais devoir structurer. Dans chaque chose, il y a toujours des éléments positifs, des éléments négatifs, et je vais devoir structurer comment expliquer ça à l'enfant. Ok. Mais atmeat, progressivement. C'est pas parce que c'est structuré qu'il va comprendre l'enfant. Il faut le faire progressivement. Uprinat et tsazo. Écoutez bien comment il va expliquer ici. Il dit que maintenant, ce conseil que je vais avoir, quand je dis ce conseil, ça veut dire cette réflexion. Cette réflexion que je vais avoir, à savoir comment le donner, quand, comment le donner, comment la quantité, la qualité, le dosage, quels éléments donner maintenant, quels éléments donner plus tard, comment je vais structurer. Ça veut dire encore une fois, la décision de base, je l'ai déjà prise. Mm-hmm. Ça, c'est ma nature. Soit je donne beaucoup, soit je donne pas du tout. La décision de base, je l'ai. Maintenant, comment ça va se passer concrètement ? Quelle est la structure ? On pourrait donner un exemple comme ça. Tu as une personne qui a décidé d'ouvrir une affaire. C'est-à-dire, comment son affaire tournera dans 10 ans ? Il a déjà réfléchi à ça. Dans 10 ans, il veut que ça tourne comme ça. Mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut après la structurer, il faut la mettre en place, il faut avoir un plan. Ok. Mais là, on va arriver aux deux midotes suivantes. C'est quoi les deux midotes suivantes ? Nikret, Netzar, Vehod. On va arriver aux deux midotes suivantes. Donc on en a déjà fait trois. On va arriver aux deux suivantes qui sont Netzar et Hod. C'est quoi Netzar et Hod ? Shehen, Klayot, Yuatzot. C'est un petit peu comme les Klayot, ça veut dire comme les reins, qui nous donnent des conseils. J'ai un à droite, un à gauche. Il explique. Ça veut dire quoi ? Vegam, Tren, Berin. On les appelle également les deux œufs qui vont préparer qui font la semence. C'est quoi? Shehi amevashli mazera, shehi atipa nusheret mamor. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que même une fois que la personne a décidé de donner quelque chose, il y aura forcément après un travail avant de donner, comme on en trouve dans le corps d'un homme, pour voir comment concrètement ça va se passer.
C'est l'organe.
Il explique comment ça va se passer. Veinu, ça veut dire. Dva chokma vesechel anushach misechel ahav, shelo yumshach ke mosheu, sechel dakmod vemocho vesechlo. Donc c'est quoi le problème qu'on a ? On a une idée, j'ai une idée dans mon esprit, une idée qui est très fine, que je ne peux pas donner comme ça, c'est trop fin pour la donner comme ça. C'est très très fin. Rak ishtanek tzat midakut sechlo, veit ave sechel shenodak kolkar, kede sheyuchal aben ekabel mocho vavanato. Pour que l'enfant comprenne, pardon, je vais expliquer quelque chose à un enfant. Mais c'est quelque chose qui est trop raffiné pour lui, il ne pourra pas le comprendre comme ça. Je vais devoir essayer de l'expliquer par quelque chose qui est à son niveau.
Une image
de quelque chose qu'il connaît. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on veut expliquer. D'accord ? Mais si je lui explique la chose telle qu'elle, telle que moi je la comprends, par exemple, il vient me poser la question, voilà, quand on est parti voter, ma fille m'a demandé pour qui t'as voté, moi je lui dis, j'ai voté pour Sarkozy, c'est un monsieur. Alors après ma femme elle est sortie de la voiture, elle est partie voter. Et ma fille, elle a posé la question, elle a dit, et toi, pour quelle madame t'as voté? C'est-à-dire, dans sa tête, elle croyait que les hommes doivent voter pour un homme et les femmes doivent voter pour une femme. D'accord? Alors, elle comprenait pas ça veut dire quoi voter. Alors, ma femme, elle lui a expliqué. Elle a dit, tu vois le tramway que tu vois ici, là? Ben, elle a expliqué que ça, il y a des gens qui ont décidé. Il y a des gens qui voulaient et des gens qui voulaient pas. Elle a expliqué le concept. Elle a donné des exemples de la vie de tous les jours, des exemples qu'elle connaît. Elle a compris. Après, elle a vu le tramway, elle a dit, ah, ça c'est la gauche qui en fait. Elle a dit, tu vois, la gauche, ils préfèrent qu'on voit dans les tramways, ils n'aiment pas qu'on prenne les voitures. Elle a dit, ah, ils veulent pas les tramways. Enfin bon, elle a compris. Est-ce qu'on a donné une image
hein? Elle voulait, à mon avis, vérifier que ta femme n'avait pas voté pour Le Pen. C'est pour ça.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on avait une idée à faire passer. On voulait faire passer une idée à un enfant. Tu ne peux pas lui donner l'idée telle qu'elle. Il ne la comprendra pas. Donc tu vas être obligé d'adapter l'idée. D'adapter l'idée. Quand je dis adapter, c'est-à-dire forcément faire descendre l'idée. Faire descendre à un niveau plus bas.
Accessible.
Vehu mamash al derech mashal, ketipa ayoredet me'amoach, shei daka me'od me'od venaset gasa vechomrit mamash bekliot vetren be'in.
On dit que c'est exactement la même chose. On dit que dans le Zohar, c'est expliqué que la goutte de sperme par laquelle l'enfant va naître, et qu'on sait que dans cette goutte, en vérité,
il y a tout
est là. On dit qu'en vérité, cette goutte, d'où elle vient, à la base, elle vient du cerveau. Ce qu'il y a de plus profond de la personne, c'est le cerveau, le moach. Seulement, ça a été matérialisé. Parce que si ce n'est pas matérialisé, eh ben, automatiquement, ça n'aurait rien fait du tout. C'est trop fin pour que ça passe. Je reviens à notre sujet, au nœud de Midot. Vegam, Netzar ve'od, Netzar et autres, qu'on va développer tout de suite. On va s'arrêter bientôt, c'est l'heure. Nikra, Shrakim, Verechaim. C'est appelé également le moulin. C'est comme un moulin. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait le moulin? Je vais faire de la farine. Mais si je prends directement la graine, d'accord? Si je prends directement l'épi, enfin, même la graine, et je vais essayer de pétrir avec, ça ne marchera pas. Donc je vais être obligé de la réduire, de la transformer. Très bien. Donc c'est ça l'étape de Netzach et Od. Pourquoi Netzach et Od maintenant? On va traduire. Je finirai à l'oral. C'est quoi Netzach? Netzach, c'est la victoire. D'abord, je traduis, après j'explique. Hod, c'est l'humilité. J'ai besoin de ces deux qualités pour enseigner. Pourquoi? D'abord, j'ai besoin de la victoire. C'est quoi la victoire? La victoire, c'est l'envie de gagner.
C'est la maîtrise.
La maîtrise, exactement. J'ai décidé de donner. Même si j'ai décidé de donner à tout le monde. Mais je dois quand même maîtriser la situation. Et je prends conscience que j'ai affaire à une personne qui, si je lui donne tel quel, il ne comprendra pas, ça ne rentrera pas. Donc je vais devoir essayer de me battre avec un problème. J'ai une problématique ici, je dois adapter la chose, je dois structurer la chose de manière à ce que ça passe. Donc je vais me battre avec le problème. Donc là maintenant, on va passer à une quatrième qualité, qui est la force qu'une personne a de se battre. Se battre pour quoi? Se battre pour donner. Ou se battre pour ne pas donner. Se battre, ça veut dire pour... Se battre pour défendre...
Se défendre.
Pour défendre quoi? Pour défendre mes idéaux. C'est-à-dire qu'en vérité, les idéaux, il y en a trois. Il n'y a que trois idéaux. Pour nous, il n'y a que trois parties. Soit complètement à droite, soit complètement à gauche, soit au milieu, ça veut dire c'est plutôt à gauche, mais dans certains cas, il apprend à être miséricordieux. Ce qu'on a expliqué. Ça, c'est les idéaux. Mais après, les idéaux, ça c'est bien beau les idéaux, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Donc il faudra Netzar. C'est quoi Netzar? Netzar, c'est l'envie de se battre. Il va falloir se battre. Il va falloir se battre, il va falloir adapter ton message, il va falloir réfléchir, il va falloir adapter constamment, se poser la question, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. Tu vas devoir te battre pour tes idéaux. Et dans tous les cas, il faut se battre. Peu importe la qualité dans laquelle tu étais avant, chesed, gvura ou tiferet, bonté, rigueur ou tiferet, il faudra toujours te battre pour y arriver. Ça, c'est netzar. De l'autre côté, si tu veux que ça marche, il faut hod. C'est quoi hod? Hod, c'est l'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce que si je n'ai pas l'humilité d'essayer de me taire et d'essayer de comprendre est-ce que l'autre a perçu mon message ou pas, et que pour moi, je dis je donne ce que je donne et l'autre il fait ce qu'il veut, le message ne passera pas. Donc je dois avoir également de l'humilité. C'est quoi l'humilité? L'humilité, ça veut dire réduire. J'explique ce que je veux dire. On va prendre l'exemple de ce papa qui voulait expliquer à son enfant qu'est-ce que c'est les élections. D'accord? Il a envie d'expliquer à l'enfant la chose telle qu'elle. Mais on a dit que l'enfant ne comprendra pas. Donc qu'est-ce qu'a dû faire le papa? Il a dû adapter. Donc il a dû avoir de l'humilité pour se descendre au niveau de l'enfant. Donc on vient de toucher une cinquième catégorie, qui est l'humilité. Là, en fait, le but qu'il veut expliquer l'Admor HaZaken, c'est que dans la vie de tous les jours, on a en vérité trois idéaux, mais pour faire ces trois idéaux, on va avoir les autres catégories. Donc on a dit la catégorie de la victoire, l'envie de gagner, l'envie d'arriver au bout de ses idéaux. Et d'un autre côté, il faut l'humilité. Et vous remarquez que dans l'arbre des Sifirot, il y a un arbre des Sifirot, c'est comme un arbre. On a à droite la bonté, qui dit on donne toujours. À gauche, on a la rigueur, qui dit non, on donne seulement à ceux qui méritent. Au milieu, on a dit, qu'est-ce qu'on a? On a la miséricorde. On repasse à droite. Qu'est-ce qu'on a juste en dessous à droite? On a l'envie de gagner. Parce que l'envie de gagner, une personne qui a envie de gagner, c'est quoi? C'est un battant, il va de l'avant. Donc, ça va toujours dans du côté chesed.
Vous comprenez que c'est complémentaire tout ça. Là, on commence à comprendre comment l'un est imbriqué dans l'autre. De l'autre côté, tu as l'humilité. On a dit, c'est quoi l'humilité? C'est que tu vas devoir réduire ton message. Donc tu vas amoindrir ton message. Donc on est du côté moins. On est d'accord? Netzar Od. Ok. Je vous développe la suite et après, on... et après Bezrat Hashem, on développera la semaine prochaine.
Là, ça en fait 5.
D'accord? Ça en fait 5. D'accord? On doit arriver à 7. Il nous manque 2. Il nous manque Yesod. Yesod, c'est la communication. C'est le... ah, on va voir. Yesod, il va être pile entre les deux. Mais ça, on va développer la semaine prochaine. Et enfin, la dernière catégorie qui nous restera, ce sera Malchut, la royauté. L'envie de régner. Selon le Zohar, dans ces 7 catégories, on retrouve toute la structure de tous les hommes. Donc on a expliqué à droite, à gauche, au milieu, ça c'est en général, ça c'est les 10 listes, d'accord. Après on a l'envie de gagner, d'un autre côté l'humilité, donc l'envie de gagner ça veut dire l'envie de défendre ses idéaux, l'humilité ça veut dire l'humilité justement pour comprendre les autres, au milieu on aura la communication. Pourquoi la communication? Parce que la communication c'est un mariage des deux. T'as des gens qui sont trop humbles, ils sont toujours à l'écoute mais ils n'arrivent pas à donner. T'as des gens qui ont toujours envie de gagner, mais qui, du coup ils sont plus à l'écoute, donc ils ont plus d'humilité. C'est quoi la communication? C'est les deux. La communication, c'est la synthèse des deux. C'est-à-dire, d'un côté, j'ai envie de gagner, et d'un autre côté, j'ai l'humilité pour savoir écouter l'autre. C'est pour ça que Yesod, dans l'arbre des Sephirot, il est où? Il est au milieu. D'accord? Malchut, la royauté, l'envie de régner, sera également au milieu. Mais ça, c'est deux, les deux notions, Yesod et Malchut, je vais les développer la semaine prochaine. Ça, c'est à développer. Mais là, hein, rappelez-vous...
Yesod et Malchut, ils sont pas variables. Ils sont fixes, alors.
Ils sont fixes, oui. Mais non, en vérité, tout est variable en quantité. Parce que ça, c'est... Je veux dire, c'est leur position.
Non, mais si, c'est...
Le problème après, c'est que l'un va être imbriqué dans l'autre. Je te donne un exemple. Tu as une personne, par exemple, qui est plutôt, dans ses idéaux, il est plutôt gvoura, il est plutôt rigoureux. D'accord? Il est rigoureux, c'est-à-dire qu'il ne donne pas. Tu peux avoir une personne qui est rigoureux, mais qui est également en od, en humilité. C'est-à-dire qu'il est rigoureux, mais qui reste chez lui. Ça veut dire qu'il reste chez lui à la maison et qu'il n'embête personne. D'un autre côté, tu vas avoir une personne qui est rigoureux, mais qui est en mode netzar, qui a envie de défendre cet idéal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une personne qui va se battre pour être rigoureux. Alors que le fait de se battre, c'était à droite pourtant. Tu comprends? Il va se battre, c'est-à-dire il va aller vers l'avant, donc le plus, mais pour, il va se battre pour ne pas donner. Tu comprends? Donc c'est-à-dire, on l'expliquera la semaine prochaine qu'en vérité, tous sont imbriqués les uns dans les autres. Pareil dans la communication. Il faut avoir la communication dans la bonté. La communication dans la victoire. C'est-à-dire qu'il va gagner, mais la victoire passera par la communication. Et tous sont imbriqués les uns dans les autres. Et ce qui fait la différence entre les hommes, c'est le dosage. Donc t'as des gens qui vont être plus forts dans une qualité, dans une autre qualité. Il y en a 49. On va passer de 7 à 49 la semaine prochaine. Et une fois qu'on arrive à ces 49, on va expliquer que c'est le dosage de ces 49. Donc t'as un qui a un peu plus du numéro 1, du numéro 4 et du numéro 5. C'est ça ce qui fait qu'il n'y a pas une personne qui ressemble à l'autre.
C'est pas toujours constant. Ou bien c'est vraiment... On sait qu'on a cette position
j'ai
et c'est
ce qui caractérise...
On a une nature.
Oui, d'accord, mais est-ce que c'est constant après?
Mais c'est une nature. Oui. C'est vrai, c'est la nature.
Oui, mais après, tu peux faire
varier. J'ai pas dit que t'as une seule des 49.
Tu peux éclairer après.
Oui,
là,
tu as des gens qui sont plus d'un côté et moins de l'autre. Et c'est ce mélange de tout. Et puis, quand tu veux trouver l'équilibre, il faut ce qu'on appelle la zone d'effort. C'est là où tu feras plus d'efforts.
Exactement.
Pour pouvoir équilibrer. C'est tout. Si tu es trop beau, il va falloir te retourner pour essayer d'être le plus équilibré possible. En fait, il faut arriver à équilibrer
tout. C'est ce qu'on va expliquer. D'accord? Rappelez-vous, pourquoi on développe tout ça? Pour réussir à décomposer notre personne. Et quand on décompose notre personne, c'est un peu ce qu'on fait dans la Gemara. Vous savez, dans la Gemara, quand la Gemara elle veut répondre à une question, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décompose le problème. Parce que un problème, quand on a du prendre du mal à l'attaquer, parce que c'est un bloc. Quand tu décomposes le problème, tu prends bloc par bloc, tout devient plus facile.
Comment ça s'appelle en mathématiques?
D'accord?
Non, mais il y a un truc.
En mathématiques,
quand tu as un gros problème, il faut le
dériver. Non, pas les dérivés, c'est pour mathématiques, comment tu décomposes.
Il y a des groupes, il y a les activistes, il y a les...
Ouais. Et puis tu dois décomposer. Et comme tu attaques chacun d'entre eux plus simplement,
le prospect.
Exactement.
Finalement, tu réussis.
Et bien, nous, ce qu'on va développer maintenant, on va dire qu'en vérité, dans ces 7 catégories, tu retrouves tous les sentiments des personnes. D'accord? C'est comme ça qu'on va développer. Bon, mais il nous reste encore beaucoup.
Il faudrait que je te rapporte au management, c'est ça.
Azak, voilà.
Extraverti, introverti.
Utilise un arbre aussi.
Ouais,
pour visualiser.
C'est je crois, ça s'appelle.
Alors on continue la semaine prochaine.
Oui, voilà la pyramide.